Saint-Alexandre Soli, un Italien, qui est né à Milan en 1534, l'année même où Jacques Cartier a abordé ici au Canada et a découvert notre pays, les possessions au nom du roi de France. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alexandre Soli, donc né à Milan, devait illustrer une congrégation, la congrégation des Clairs-Réguliers de Saint-Paul, qui sont connus surtout sous le nom de Barnabites, c'est assez curieux, hein, et qui avait été fondée par Saint-Antoine Marie Zacharia, dont je vous ai parlé le 5 juillet dernier. À 17 ans, ce jeune Alexandre Soli, S-A-U-L-I, a demandé son admission dans cette nouvelle famille religieuse, et pour l'éprouver, on lui a ordonné de faire quelque chose de très difficile. On appelle ça le fol en Christ, F-O-L, hein, fol en Christ. Je vous parlerai un jour de ces fol en Christ. C'est des ouvrages là-dessus qu'on peut trouver dans les librairies religieuses. Il y a eu beaucoup, beaucoup de fol en Christ. Ce sont des gens qui posent des gestes de folie, comme pour se cacher derrière une espèce de voile. Alors on lui a demandé donc de faire le vol en Christ, comme ça, le fol en Christ, en prêchant Jésus crucifié sur une place du marché, tout en exhibant une grande croix. Bah, on voit ça à Londres, à Hyde Park, ça se fait, n'est-ce pas? Les prédicateurs font ça depuis bien longtemps. Et à cette époque, au XVIe siècle, c'était très exceptionnel. Alors, il a obéi. Ça fut un succès. C'était bon prédicateur. Il a conquis la foule. Il devrait peut-être essayer ça au parc La Fontaine, puis sur la montagne. Peut-être qu'on des grands et bons prédicateurs catholiques réussiraient à réunir les foules. Ça se pratique un peu dans les rues de Paris, des catholiques courageux, solides, bien avertis et bien mandatés, qui convertissent ainsi des gens dans la rue. Bon, j'avais un ami qui faisait ça, un ami, quelqu'un que j'ai rencontré qui est devenu un ami. C'est le responsable, à l'époque, de l'Eurotunnel, qui est en difficulté d'ailleurs, ce grand tunnel sous la Manche qui réunit l'Angleterre et la France. Et cet homme avec sa femme, dans les rues de Paris, ont souvent prêché et converti des gens. Alors Alexandre Soli a été reçu dans la communauté, lui qui était de famille noble. Il a donné l'exemple de la pauvreté, de l'humilité. Et très doué intellectuellement, il a fait des études à l'université. Là, il est devenu professeur et même doyen de la faculté de théologie, et pas n'importe laquelle, mais la faculté de théologie de Pavie. Et puis, prédicateur de talent, un confesseur très apprécié. Il a eu peur un peu devant les dons qu'il avait. Il a eu peur de se glorifier. Et puis, c'est pas sa faute, il avait des talents extraordinaires. Mais il était un peu gêné de tout ça. Alors c'est pourquoi il tenait à accomplir des fois les tâches les plus humbles. Il aimait bien servir au réfectoire, faire la vaisselle. Mais très en vue dans sa congrégation, bien, il en est devenu le second supérieur général. À quel âge? Imaginez, à 33 ans seulement, et 3 ans plus tard, bien, le pape l'a nommé évêque. À 36 ans, oui, il lui a confié un diocèse particulièrement pauvre, en Corse, celui d'Aléria, en Corse, sur cette île, qui était alors, à cette époque, au XVIe siècle, un petit peu pas mal barbare, dirait-on, et même encore assez idolâtre, et c'est assez surprenant. Et puis, selon un auteur, d'ailleurs, qui a vécu à peu près à cette époque, on tuait même dans les églises, et le prêtre qui s'y rendait devant, il devait, à l'occasion, être armé, avoir une lance, un poignard, pour se défendre de crainte d'être tué dans l'église où il allait célébrer la messe. Vous savez, la Corse a toujours été un pays assez dur, hein, on sait ça. Même encore aujourd'hui, bon, je ne suis pas aussi grave qu'autrefois, mais les Corses ont quelque chose. Hein? Napoléon était Corse, comme vous savez. Et par ailleurs, bien, les curés étaient souvent d'une ignorance invraisemblable à cette époque. Les séminaires n'avaient pas encore été fondés. Je me souviens, en me promenant en Grèce, oh, il y a bien des années, il y a une quinzaine d'années, je parlais avec des prêtres grecs, orthodoxes, qui portent toujours leur chapeau, je ne sais comment ils appellent ça, leur grande soutane ample, leur barbe. Ils ont une certaine dignité. Et je parlais avec quelques-uns d'entre eux, sur l'île de Skyros en particulier, puis, à mon grand étonnement, c'était d'anciens bergers qui n'avaient, pour ainsi dire, pas fait d'études, qui étaient mariés, qui avaient des enfants, qui étaient dévoués, mais qui connaissaient pas grand-chose. Et alors donc, dans la tâche ingrate d'Alexandre Soli comme nouvel évêque, eh bien, il s'est dépensé sans compter. Il est même devenu celui qu'on a qualifié d'apôtre de la Corse. Il faudrait des pages et des pages pour raconter tout le zèle, tout le courage qu'il a déployé pour ce peuple corse qui lui avait été confié. Il est demeuré à Aléria plus de 20 ans, imaginez, 20 ans, jusqu'à l'âge de quoi, de 56 ans, jusqu'à sa nomination au siège de Pavie, où il avait été doyen de la faculté de théologie. Il est mort le dimanche 11 octobre. 11 octobre, à une autre date mémorable, 1592, au moment, quoi, de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Non, c'est 1492, pardon, je suis dans l'erreur, c'est 100 ans plus tard. Et il n'avait que 58 ans, ce pauvre évêque, qui était épuisé. Je peux mentionner aujourd'hui comme ça, non pas parce que c'est un saint, mais un prêtre, Ulrich Zwingli. C'est quelqu'un qui a suscité un schisme à Bâle, particulièrement en Suisse, qui est mort en 1531, voyez-vous, quelques années avant la naissance de Saint-Alexandre Soli. Il est né pourtant près de Saint-Gall. Saint-Gall, il y a là un monastère remarquable, l'abbaye de Saint-Gall. C'était un humaniste, un réformateur, un suisse, un prêtre, quoi. Il a fait abolir le célibat des prêtres dans sa région, en se révoltant contre l'Église. Il a fait abolir la messe. Il prônait la seule lecture de l'Évangile comme étant la source de la vraie vie chrétienne. Il a d'ailleurs laissé plusieurs ouvrages, dont « De la vraie et de la fausse religion » qu'il a écrit en 1525. Je vous mentionne ça parce que ces réformateurs, certains d'entre eux, comme Zwingli, ont entraîné beaucoup, beaucoup de Suisses qui sont encore aujourd'hui zwingliens. J'ai une filleule qui était zwinglienne au moment d'une conversation qui a duré seulement une heure et demie. Et à la fin, elle était catholique. C'est la fille de l'ancien président de Suisse qui était née à Berne, justement. Et presque naturellement, ces gens-là sont zwingliens. Or, je vous mentionne ça parce qu'aujourd'hui, nos églises sont à peu près vides. Serait-ce parce que les catholiques n'ont plus besoin de la messe, à l'exemple de Zwingli? Est-ce que c'est parce qu'ils se contentent de leur lecture présumée de l'Évangile à domicile? J'en doute fort d'ailleurs qu'ils le lisent. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils sont enragés contre l'Église et le pape qui ne permet pas que les prêtres de rite latin, je dis bien de rite latin, se marient? Car dans l'Église catholique, les prêtres de rite oriental, dans plusieurs églises, ont l'autorisation de se marier. C'est une question de loi qui s'applique à l'Église latine. Alors ça semble ridicule, ces gens-là sont révoltés contre les prêtres, qui manquent parfois de cette culture qu'ils croient eux-mêmes avoir, qu'ils ont souvent, et alors, ils ne veulent plus aller voir et entendre ces prêtres, ne veulent plus assister à la messe, et s'éloignent de l'Église. Est-ce qu'ils sont pas un peu zwingliens? Réfléchissons deux secondes. L'an prochain, je pourrai vous parler plus longuement de Zwingli. C'est aussi l'anniversaire du décès de la mère du curé, Monseigneur Louis Aucoin, sa mère, Marianne Aucoin, qui est morte comme une sainte, Il en a écrit la vie et je l'ai lu. C'est bref, mais c'est très intéressant. Et c'est surtout l'anniversaire du décès de Robert Hugh Benson. C'est lui dont je vais vous parler. C'est un article que j'ai trouvé de Jean-Paul Laurie, extrêmement intéressant sur Robert Hugh Benson, décédé en 1914 à 42 ans. C'est un romancier, un mystique, un communicateur. Il écrit énormément, c'est incroyable tous les livres qu'il a écrits. Plusieurs dizaines, des essais, des romans. Il est devenu Monseigneur Benson, prêtre catholique anglais. Il était d'une famille d'intellectuels et de croyants. Je dis bien de vrais croyants anglicans. Il était d'ailleurs au début pasteur anglican. Il l'est devenu en 1882. Son père, c'est-à-dire Edward Benson plutôt, qui était pasteur anglican, est devenu en 1882 archevêque de Canterbury et primat donc de l'Église d'Angleterre. C'est lui le pape anglais. On dit que c'est la reine Victoria ou bien le roi. En fait, c'est l'archevêque de Canterbury, le siège principal, épiscopal d'Angleterre, qui est occupé par des anglicans mariés. Ces évêques, ces archevêques, ces primats sont mariés. C'est une famille d'itinérants presque, au fond, parce que très compétent. Edward Benson, le père, recevait des nominations successives, puis il passait d'un siège épiscopal à un autre. Il avait une famille nombreuse. Il avait 3 filles, 4 garçons. Magnifiquement éduqué par sa femme, la femme de cet archevêque était une femme admirable. J'ai hâte de vous en parler brièvement. Et ses enfants posséderont tous des dons, d'ailleurs, d'écrivains ou d'artistes, comme Robert Hugh Benson, qui est devenu, lui, catholique. Et de ses enfants, donc, Robert Hugh est né le 18 novembre 1871. C'était le plus jeune. Comme les autres, il a dû se plier à quoi? Ben, à une discipline familiale assez exigeante, parce que être le fils d'un évêque ou d'un archevêque ou d'un primat, il faut savoir se bien conduire. C'est le drame aux États-Unis des fils d'évêques épiscopaliens qui se conduisent très mal, que l'on retrouve dans des discothèques, qui ont 2-3 maîtresses, qui prennent de la drogue. Les évêques sont ahuris par ça. Je me souviens d'un évêque aux États-Unis dont 2 de ses fils se sont suicidés à cause de la drogue. Cet évêque était Mgr Pike. J'ai lu les écrits de Mgr Pike. C'est douloureux, cet évêque. Il a tant souffert à cause de ses fils. Et c'est comme Bing Crosby, qui n'était pas évêque, évidemment, ce chanteur catholique, dont les 4 garçons étaient tellement de mauvaise conduite qu'il les a, pour ainsi dire, déshérités. Bien que Bing Crosby était un catholique profondément engagé, hein, comme on sait. Et alors donc, les plaisanteries, même innocentes, dans cette famille-là, n'étaient pas très très bien acceptées. Il était interdit, par exemple, de monter sur les fils de fer bordant les allées du jardin. Cette désobéissance légère était considérée comme grave. Presque tout était défendu pendant la semaine. Le dimanche, bien, qui devrait être le jour de la joie par excellence, moi, il me semble, c'était celui d'une contrainte plus grande encore. Et vous qui blâmez les catholiques pour avoir fait de nos dimanches des jours ennuyants, ben, écoutez bien ça. Les dimanches anglais s'écoulaient comment? Avec leurs rites immuables, les rites anglicans, très beaux d'ailleurs. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télévision ou assisté à des grandes cérémonies anglicanes, c'est magnifique, c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup, j'y suis allé très souvent, tant en Angleterre qu'ici, à Toronto, à New York, à Washington même. C'est superbe souvent. Hein? J'ai prêché même dans des églises anglicanes, moi, à des messes anglicanes, j'avais été invité comme prédicateur. Et j'étais tellement touché que je faisais des blagues. Je disais, « Thank God I was born French. » Je remercie Dieu d'avoir fait de moi un francophone. Comme ça, je n'ai pas été élevé dans l'anglicanisme. Autrement, être anglophone, j'aurais l'intention de me convertir à votre religion. Tellement cette religion très anglaise est très belle. Ça les faisait rire dans le... C'était pour les taquiner un peu, parce qu'ils sont vraiment très sympathiques, les Anglicans, souvent. Hein. Et alors, donc, dans la solennité un peu maniérée des dimanches anglais, mais les moindres gestes étaient plus ou moins permis. Un des frères de Robert Hugh Benson, d'ailleurs fils de l'archevêque, disait que le dimanche était épuisant. Ils ont pu s'empêcher de penser aux joies simples du dimanche des catholiques. Ils enviaient les catholiques en Angleterre. De fortes personnalités, Robert Hugh étouffe là-dedans. C'est une atmosphère guindée, car lui, c'est un rêveur. C'est un imaginatif qui est attiré par le mystère. Alors là, les évocations du diable, il est jeune, hein, les évocations du diable, la hantise, la mort, les récits de revenants, les légendes, plus ou moins pieuses, alors, c'est ça qu'il emmagasine de préférence dans sa petite tête. Il écrit, très jeune d'ailleurs encore, des histoires d'inspiration plus ou moins tragiques, s'amuse à représenter avec des marionnettes le meurtre de saint Thomas Becket, vous savez, le fameux saint qui a été tué au début du millénaire par les soldats du roi dans la cathédrale de Canterbury. Comme Chateaubriand enfant, d'ailleurs, la seule vue de son père le fige. C'est pas drôle d'être fils d'un archevêque, ça doit être difficile. Hein? Alors, sa mère a été le refuge naturel de sa tendresse, parce que Mrs. Benson a été une vraie mère, une confidente qui recevait toutes les confidences les plus étranges de ses enfants, toujours avec amabilité et grande sensibilité. C'est elle qui lit le soir Shakespeare ou Dickens, mais elle aussi, elle saura accepter la mort de son fils aîné, Martin ou Martin, avec une sérénité admirable. Elle va écrire à sa nurse, parce qu'elle avait une nurse qui s'occupait de ses enfants, comme l'on sent bien en de tels moments que l'unique séparation est le péché. Oh, très chère Beth, c'était le nom de la nurse, très chère Beth, notre petit garçon, Martin, est avec Dieu. Il connaît tout et il nous aidera. Que la paix du Dieu Tout-Puissant soit avec vous. C'est vraiment une grande chrétienne et vous verrez qu'elle est encore plus grande plus tard. Lorsque l'âge des études a approché, mais elle y est allée au collège d'Eton, très fameux, que l'on a choisi. Le mélange unique de culture, de sport, de camaraderie, puis les traditions anglaises qui règnent dans les vastes bâtiments de vieilles briques roses, il faut voir ça, et c'est très beau, ça transforme ce jeune adolescent. Et au point de vue religieux, bien, il est frappé par les beaux chants anglais. Que c'est beau chants anglais du XVIIe siècle, hein, qu'on chante le dimanche soir, à l'Evensong, que j'aime aller assister à ses officiers, c'est superbe. J'aime bien chanter avec les Anglicans dans ces cérémonies magnifiques. Je demeure toujours profondément catholique quand je partage leurs prières. Mais je sympathise avec eux, je tends la main. Pas pour les convertir directement, mais au fond de mon cœur. J'aimerais tellement qu'ils comprennent que l'unité est essentielle, mon Dieu. Mais il constate aussi, à Eton, au collège d'Eton, qu'il y a une imprécision très étrange dans le dogme anglican. On dit un peu tout, n'importe quoi, comme parfois on reproche aujourd'hui dans l'Église catholique de dire un peu trop n'importe quoi ici et là. Mais si on se renseigne vraiment, l'Église n'a qu'un seul enseignement, l'Église catholique. Il trouve aussi qu'il y a une trop grande froideur dans les prières, dans le déroulement des cérémonies, le culte officiel. Il dit, c'était plutôt des solennités artistiques qui rendaient à Dieu un hommage semblable à celui, dit-il, que constituaient vis-à-vis de la reine Victoria nos acclamations unanimes lorsqu'elle venait nous voir au collège. Alors il reçoit la communion, confirmation anglicane, ça le touche, mais sans lui faire oublier d'autres joies. Et là, en l'année 1887, il a donc 16 ans, il voit le jubilé de la reine Victoria qui triomphe de l'Angleterre, le triomphe de l'Angleterre, l'apothéose de l'Empire. C'est le grand moment, hein, il y a 100 ans, l'Empire britannique, c'était quelque chose. Hein. L'archevêque de Canterbury, son père, dans sa ferveur britannique et anglicane, déclare « La reine est l'Angleterre. Je mourrai joyeusement pour elle. » Ça déçoit le fils d'entendre son père dire des choses comme ça. Alors, l'avenir d'un jeune Anglais, l'année de ce jubilé de la reine, c'est clair. Car Hugh ne peut pas se contenter d'un prix de poésie, même s'il l'avait remporté brillamment. Car l'Empire réclame des hommes de valeur. Hein? Tout le monde se sent comme un devoir de partir à l'étranger, alors il pense apporter sa pierre à l'œuvre immense de l'Empire. Il sera grand commis à l'Indian Civil Service. Mais son euphorie est courte, il est refusé à l'Indian Civil Service. L'administration lointaine est fastueuse, car ils avaient de nombreux serviteurs indiens. Hein? Ils ne les ménageaient pas, les serviteurs. On voit ça dans des films. Hein? Mais ce ne sera pas pour lui. Alors, sans s'attarder aux regrets, des regrets inutiles, il décide de préparer à Cambridge, la belle université de Cambridge, un diplôme de Classical Honors, c'est-à-dire une licence S-lettres. Et là, il passe des heures entières d'exaltation, de rêve, à Trinity College. Un dilettante un peu. Ça le conduit sur des routes un peu dangereuses. Hein? Notre petit enfant, Hugh Benson, qui était fasciné par la pensée du diable, les visions de la mort, comme je vous ai dit tout à l'heure, se lie maintenant à des expériences d'hypnose. Il essaie de faire tourner même des tables avec des amis, mais les tables refusent obstinément de bouger. Alors, de tout ce spiritisme ne subsistera plus tard que son roman intitulé « Les nécromanciens ». Hugh, c'est Hugues, H-U-G-H, ça se prononce Hugh. Hugh erre dans un mysticisme assez trouble. C'est alimenté par une admiration enthousiaste pour Parsifal de Wagner, et la mode à l'époque. Ça l'était aussi quand j'étais jeune, je me souviens de Pierre Mercure, mon bon ami Pierre Mercure, qui aimait tellement Wagner. Je l'avais amené, moi, à aimer la musique de Décaphonique. Il a pigé vite. Oh, c'était il y a longtemps, ça, mon Dieu, 1943, je pense. Et insensiblement, il y a une évolution qui se dessine en son âme. Une évolution précipitée par la mort de sa sœur Nelly. Et l'influence de cette jeune artiste, et qui était bien charitable, c'était certainement, autant qu'on peut le supposer, décisive. Et là, on constate simplement que c'est après cette mort, la mort de sa sœur, et son diplôme de littérature obtenu, qu'il décide pour la première fois de sa vie de recevoir les ordres anglicans. Se faire devenir prêtre anglican, quoi. Et d'étudier la théologie. Alors, il se prépare au diaconat. Il aime interroger son père, l'archevêque et le primat de l'Église d'Angleterre, au cours de longues promenades qu'ils font parfois à cheval. Un jour, à la question, les catholiques romains font-ils partie de l'Église du Christ? Une question embarrassante. Alors, son père, l'archevêque, après un long moment de réflexion, répond que personnellement, il ne le croit pas, mais que Dieu seul sait quels sont les membres de son Église. Alors, au cours d'une retraite, mais notre jeune dilettante est bel et bien mort. Il n'en a plus de dilettante chez lui. Il sort de la retraite transformé. C'est un diacre anglican résolu qui part en apôtre. Et en 1895, il va dans un quartier pauvre de Londres. Après une adolescence qui avait été raffinée, il prend contact avec les tristesses de la misère matérielle et spirituelle. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire de mon fils Guy. Il aurait eu 42 ans aujourd'hui. Et quand on descend dans les quartiers pauvres, comme je ne les nommerai pas, Montréal, on les connaît, où j'avais trouvé sa mère, quand il a eu 21 ans, 3 ans après que je l'ai adopté, j'ai découvert toutes sortes de choses. Et c'est là que la misère spirituelle m'est apparue comme à Hugh Benson, qui n'était pas seulement visible dans les bas quartiers, les slums londoniens. Comme un homme de bonne volonté cherche à trouver sa route le dimanche à Hyde Park, qu'est-ce qu'il peut trouver à Hyde Park et dans les endroits publics où on prêche, ou à la radio, on entend toutes sortes d'émissions religieuses à différents postes. les post-protestants en particulier, de toutes sortes d'églises. Qui dit la vérité? Il y a une multitude de pancartes et d'orateurs. Chacun prétend posséder la vérité. Alors, Hugh Benson se demande devant les Wesleyens, les baptistes, les catholicisants anglicans, les puséistes qui sont très, très catholiques chez les anglicans, les ritualistes, etc. Benson n'échappe pas à cette inquiétude. Son tempérament le rapproche à la fois et des catholicisants et des ritualistes chez les anglicans. Il se rapproche de l'Église catholique petit à petit. Ce jeune prêtre anglican, qui est fils de l'archevêque de Canterbury, archevêque anglican, éprouve une grande douleur. En 1896, un dimanche, son père meurt, pendant que les fidèles chantent pour toujours avec le Seigneur. Alors, ce jeune pasteur qui est tenté par le catholicisme se demande quoi faire. Il est accompagné finalement de sa mère et de sa sœur quand il part pour l'Égypte. À Louxor, en Égypte évidemment, pendant que sa sœur Maggie s'enthousiasme pour les fouilles, qu'elle dirige elle-même d'ailleurs parce qu'elle s'intéresse beaucoup à ça, malgré son extrême jeunesse, lui, Robert Hugh Benson, s'étonne de rencontrer une église catholique, bon, sans grande beauté certes, mais semblable à bien d'autres églises catholiques répandues de par le monde, mais qui témoignent par leur présence de l'universalité de l'Église de Rome. Et là, le contraste avec l'Église anglicane s'impose à son esprit. En ce pays d'Égypte, que représente donc l'Église anglicane? Alors, il doit reconnaître avec une sincérité qui se mêle de tristesse, car il aime beaucoup l'Église anglicane, qu'une église nationale hors de sa nation, c'était décidément peu de choses, écrit-il. L'église anglicane est plus universelle maintenant, hein? Elle est beaucoup plus répandue à travers le monde, depuis 100 ans. Alors, le pèlerinage qu'il effectue en Palestine, dans les lieux saints, ne fait que confirmer cette obsession, parce qu'il y trouve des églises catholiques, et pour ainsi dire, pas de présence anglicane à l'époque. Alors, de retour en Angleterre, le rêve du pasteur, ou du prêtre Hugh Benson, se réalise. Il est nommé clergyman du village de Kempsing, sur la route de Londres à Folkestone, et qu'il ferait bon vivre sa foi sans la penser, sans se laisser inquiéter par cette fameuse église catholique, pour cette espèce de mission italienne, comme il l'appelle. Car l'église catholique a bien l'air trop italienne, hein, à cette époque. Avec quelle joie qu'il découvre cette supplication oubliée de la liturgie anglicane. On priait comme ça dans l'église anglicane. Je vous cite ça parce que c'est complètement fini. L'écuménisme a changé tellement de choses. Les anglicans disaient de l'évêque de Rome et de ses absurdités détestables, « Délivrez-nous, Seigneur !» C'est terrible, mais c'est fini ce temps-là, heureusement, et nous aimons bien les anglicans. Moi, je les aime en tous les cas. Alors, s'il se pose tant de questions, c'est parce que l'histoire religieuse de l'Angleterre le trouble. Est-il réellement, lui, fils du primat anglican, le véritable successeur des prêtres d'avant la réforme anglicane, de ces prêtres catholiques dont il lit d'ailleurs les noms sur les pierres de son église? C'est une question combien angoissante, hein, pour un pasteur anglican, un prêtre anglican. Alors, lui qui pensait trouver la facilité ou d'une bonne vie pieuse, sans tracas, à la campagne, dans une église anglicane, un presbytère anglican, eh bien, il n'a rencontré qu'obscurité plus grande. Dans le mouvement anglican, à l'époque, qui était très catholicisant, ben, on essaie de reformer des ordres contemplatifs. Et la première réalisation qui a vu le jour à l'époque, avec les bénédictines anglicanes, c'était pour les hommes la congrégation missionnaire très originale de Mirfield, dans le comté d'York, et Benson va y mener la vie monastique. On s'occupe d'évangélisation aussi par les sacrements. Alors, pour l'atteindre, les moines de Mirfield ont mis au point un compromis entre la vie contemplative et la vie active. Ces moines-là, anglicans, consacrent 6 mois à la prière et à l'étude, et c'est curieux, les 6 autres mois de l'année sont réservés à l'apostolat extérieur. Et ces moines anglicans cherchent de leur mieux, quoi, à se comporter en moines véritables. Alors, ils récitent l'office, c'est l'office du prayer book, le livre officiel des prières de l'Église anglicane, le prayer book, hein, qu'on retrouve souvent dans les bancs quand on va dans une église anglicane. J'en possède un en français qui est très beau, que l'on vend pour 100 fois rien. Je pense que j'ai payé 3 dollars. Il est magnifique. Il y a de très belles prières là-dedans. Alors, il récite cet office, il s'astreigne au silence, il s'assemble en chapitres, oui, prononce des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, mais pour un an seulement, c'est renouvelable. Le travail manuel, le jardinage, le sillage du bois, mais ça les repose, leur fatigue intellectuelle. Hein. Et alors, les 6 mois de solitude accomplis, Hugh Benson quitte Muirfield pour aller prêcher à travers l'Angleterre. Et en prédicateur simple et courageux, bien, il stigmatise la guerre anglaise dans l'Afrique du Sud contre les Hollandais, contre les Boers ou les Boers. C'est une espèce de péché, comme il dit. Et il expose l'esprit dans lequel doit s'accomplir l'un des devoirs de chaque jour. Il dit, de vos petits devoirs, faites donc des sacrements. Il parle comme un catholique, hein. Consacrez-les pour qu'ils deviennent des choses saintes, comme le pain et le vin après l'offrande du prêtre. Et de cette époque date son premier livre, qui s'intitule « La lumière invisible ». C'est là qu'il constate les contradictions qui déchiraient alors son âme. Il y a chez lui l'amour de la vieille Angleterre catholique d'autrefois, alors qu'elle était encore, comme on dit, l'île des saints. Vous savez que c'est le nom de l'Angleterre, l'île des saints, comme l'Irlande. Les fastes liturgiques d'autrefois mêlées au merveilleux et un mysticisme qui était teinté de poésie autrefois. Il recherche ça. Alors ce moine anglican est d'ailleurs curieux de tout, des sciences occultes même, comme de la vie au Moyen-Âge. Il admire avec beaucoup de ferveur Fénelon, hein, François de Salignac de la Motte Fénelon, vous connaissez, hein, qui est mort à 64 ans, qui a été précepteur du duc de Bourgogne, archevêque de Cambrai, qui était membre de l'Académie française, et qui était un grand prédicateur, mais il a pris le côté des quiétistes. Je vous parlerai de tout ça un jour. C'est une doctrine très dangereuse qui existe encore aujourd'hui. Hein. Cette doctrine mystique selon laquelle la perfection chrétienne réside où? Mais dans simplement l'abandon en Dieu. Et alors, c'est pas nécessaire d'avoir des œuvres concrètes de charité. Très dangereux. Et puis, il s'intéresse beaucoup à Rudyard Kipling, puis à Huysmans, dont je vous parlerai aussi, Joris Karl Huysmans, écrivain catholique. Alors, le 1er août 1901, c'est la date de sa profession monastique, dans une extase de contentement. Mais il y a des tourments intérieurs. Il correspond avec des Anglicans, qui sont eux aussi peinés de la séparation des églises chrétiennes. Puis il discute avec des prêtres catholiques. Il cherche la vérité dans des livres. Il avoue lui-même que ce ne sont pas seulement des arguments philosophiques qui peuvent le convaincre, lui, qui est sensitif et intuitif. Il dit « Toutes ces lectures m'ont troublé, désolé au dernier point ». Mais il y a 2 titres de livres qu'il mentionne avec reconnaissance. C'est « Le développement de la doctrine chrétienne de nul autre que de Newman, dont je vous ai déjà parlé, le cardinal John Henry Newman, qui était un prêtre anglican le plus réputé de toute l'Église d'Angleterre. » Il n'hésitera pas d'ailleurs à dire de Newman, « Pour moi, il fut le prophète. » Il lit aussi « Doctrine et rupture doctrinale » de Marlock, après la lecture duquel, d'ailleurs, il avait écrit « Réellement, sincèrement, je n'ai plus de doute. » Vous avez parlé de Newman le 11 août dernier, en même temps que de Saint-Clair. Alors, devant les incertitudes, les contradictions, les obscurités, puis les lacunes de la religion anglicane, si belle soit-elle, il est devenu sensiblement catholique d'esprit et de cœur, comme bien des anglicans qui même ne deviennent pas catholiques. J'en ai rencontré, moi, qui sont catholiques de cœur, et qui attendent l'union future où tout se rassemblera. Ils veulent pas y aller un à un. Ils veulent rester chez les anglicans afin de catholiciser l'anglicanisme. Mais on peut pas croire à des vérités religieuses sans conformer sa vie aux commandements. Hein? Alors, c'était un passage difficile pour lui. Un moine anglican, fils de l'archevêque de Canterbury, primat de l'Église d'Angleterre, comment faire? Ah, pour franchir le pas irrémédiable qui mène à ce qu'il appelle la cité de Dieu, il lui faudra vaincre bien des scrupules et briser des habitudes qui lui sont chères. Attrister des amis, c'est compliqué se convertir. Changer d'église quand on est attaché à une grande église comme l'église anglicane. Alors, dans ses derniers combats, il dit « Je ne puis comprendre pourquoi Dieu permet toutes ces hésitations. » Et sa conversion est attendue maintenant. Les deux visites qu'il accomplit au nouvel archevêque de Canterbury, qui a succédé à son père, comme d'ailleurs aussi il rend visite à Lord Halifax, qui était un anglican qui a énormément fait pour le rapprochement entre l'Église catholique et l'Église anglicane. Mais ça confirme officiellement ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Dans sa propre famille, contrairement à la plupart des convertis, c'est merveilleux, il ne rencontre qu'une compréhension affectueuse. Son propre frère Arthur lui écrit, connaissant vos pensées, vous savez ces gens-là se vous voyez même entre frères, connaissant vos pensées comme je les connais, je ne puis vous souhaiter d'agir autrement que vous n'agissez. Et écoutez bien ça, sa mère, elle est la femme du primat de l'Église d'Angleterre, sa mère. Sa mère trouve les mots de confiance fantastiques. Ah, moi, j'ai été bouleversé quand j'ai lu ça. Elle dit à son fils, « Vous savez que vous êtes nôtre toujours, que rien n'entamera cette réalité profonde et bénie de notre tendresse. Au reste, vous êtes où vous a mené Dieu. C'est à lui que nous vous confions, avec un amour total et une espérance illimitée. » Est-ce qu'il y a une mère qui a jamais si bien parlé à son fils qui change de religion? Que c'est beau, hein? Alors, le 11 septembre 1903, Hugh Benson devient officiellement catholique. « J'avais échangé, dit-il, une erreur qui m'était familière et douce, contre une certitude. » Où se sentir encore plus catholique, sinon à Rome? Oh là là, c'est dangereux, ça. Alors le jeune converti décide d'aller y faire son séminaire. Alors, il y a des dépaysements, évidemment. Il entend une messe aux catacombes, puis à Saint-Pierre. Il est noyé dans la foule des chrétiens et des prêtres du monde entier. Il exulte de joie, il ne voit que les beaux côtés, car il possède la paix absolue, dit-il, de l'esprit. Et le nouveau séminariste catholique traduit lyriquement ses perpétuelles actions de grâce. Il dit, « Auparavant, je m'étais fait du christianisme l'image d'un doux et subtil parfum, demandant à être goûté dans le recueillement. Et maintenant, je voyais que le christianisme était le levain. » Écoutez bien ça. « Le christianisme était le levain, caché dans les lourdes masses du monde et ayant pour effet de faire lever la pâte. » Dans les proportions incalculables. Or, si nous étions convaincus que le christianisme, c'est ça, c'est le levain qui est caché dans les lourdes masses du monde, les lourdes masses qui s'écrasent, mais on peut, nous, les chrétiens, faire lever tout ça, faire lever la pâte dans les proportions incalculables, comme il dit. Et Robert Hugh Benson quittera Rome pour Cambridge, la paix et la joie dans l'âme. Et tout en conseillant spirituellement les jeunes de Cambridge, il éprouve le besoin impérieux d'écrire, de se délivrer du message qu'il porte en lui. Alors, des romans historiques et catholiques d'abord, avec la tragédie de la reine, puis l'œuvre du roi, puis des romans résolument modernes comme, romans modernes pour l'époque évidemment, les sentimentalistes, les conventionnalistes. Et bientôt, il songe à un roman d'anticipation, oui, qu'il annonce à sa mère, un roman à la Jules Verne presque. « J'ai l'idée d'un livre si vaste et si pathétique que je n'ose y penser. » Et en 1906, il achève ce livre étonnant qui s'appelle « Le Maître de la Terre ». On trouve plus ça, j'imagine, en librairie. Il a là une évocation de l'Antéchrist et de la fin du monde. C'est un livre ambitieux, inégal. Seul un écrivain de génie pouvait le réussir, mais Benson possède seulement un grand talent. Des visions, sinon de prophète, du moins d'anticipateur, hardi. Certaines précisions, d'ailleurs, ne manquent pas de mérite, si l'on songe à l'année où tout ça a été écrit, c'est en 1906. C'est assez phénoménal, hein. Il parle même de voyages aériens, comme Jules Verne. Et il a des intuitions étonnantes. Mais il parle aussi de l'euthanasie généralisée qui attend l'humanité. On y est. Il parle d'événements qui n'hésitent pas à dater d'un millésime précis, en laissant le lecteur impressionné. Il n'était pas donné à n'importe qui d'écrire, par exemple, à cette époque, après la ruine définitive de l'Église de France au début du siècle et les massacres populaires de 1914, il prédit la guerre, quoi. La bourgeoisie du monde entier se mit sérieusement à un travail de réorganisation et c'est alors que commença l'extraordinaire mouvement dont nous voyons aujourd'hui les effets, un mouvement, et quel est ce mouvement, qui tendait à supprimer toute distinction de patrie ou de classe sociale après avoir supprimé toute institution militaire. Une espèce de vision du communisme, je ne sais pas, c'est très étrange. En tout cas, le vrai mérite de ce roman se trouve ailleurs. L'auteur a voulu prouver qu'un monde scientifiquement organisé conduit à la catastrophe. L'air devient en effet irrespirable parce que les lois de Dieu sont méconnues. On y est dedans ce monde. Après avoir refermé le livre, mais cette vision de l'avenir terrestre de l'Église, à la fois désespérée et triomphant malgré les faiblesses des catholiques, ça fait penser hein, au pessimisme chrétien d'un grand auteur anglais aussi catholique d'aujourd'hui, Graham Greene, ou Graham Greene si vous préférez. Comme s'il avait craint d'être allé trop loin dans son évocation, d'ailleurs, Robert Hugh Benson, ce romancier, écrit un nouveau roman dans la ligne du précédent et nous y retrouvons toujours un thème qui lui est très cher, à savoir que l'abandon du catholicisme conduit les hommes à la catastrophe. Je suis convaincu de ça, moi. On me dira que je suis attardé. Bon, ça ne me fait rien. Quand on abandonne le catholicisme, on abandonne le Christ. Quand on abandonne le Christ, on abandonne le Dieu vivant venu nous enseigner les vérités fondamentales du pardon, de l'humilité, de l'oubli de soi pour aider les autres. Le don de soi. Où est-il le don de soi aujourd'hui? Il y en a. Il n'en a pas assez. Notre société s'effondre dans un paganisme, comme le faisait remarquer un de mes amis athées. Il me disait, ce qui est le plus triste dans cette société d'aujourd'hui, c'est ce paganisme dans lequel nous sommes tombés. Il est athée. Alors bientôt, Robert Hugh Benson est fatigué de sa tâche de vicaire à Cambridge. Alors il est contraint au repos. Ce prêtre traverse donc une phase pénible de sa vie. Il est malade. Sa sœur Maggie devient neurasthénique. La vieille nurse Beth, dont je vous ai parlé tout à l'heure, meurt. Son apostolat l'absorbe. De tous côtés parviennent des lettres d'angoisse qui quittent des conseils spirituels. C'est des conseils variés, mais toujours simples et pratiques, adaptés qu'il donne. Il nous livre sans doute le secret de sa conversion lorsqu'il écrit à un anxieux, un angoissé. Quand vous auriez lu toute la bibliothèque, Bodleian, c'est une grande bibliothèque en Angleterre, ce ne serait pas assez pour vous convaincre. Si vous aviez sous les yeux toutes les chronologies du monde, vous ne seriez pas plus près de la solution. Alors, quelle est la solution, d'après Robert Hugh Benson? C'est « L'ultime parole est dans votre cœur ». Et il ajoute quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Dès 1908, un autre conseil aux Anglicans insatisfaits revient plusieurs fois sous sa plume. Il dit « Allez à Lourdes, allez donc à Lourdes ». Là-bas, les arguments intellectuels s'effondrent d'eux-mêmes. On redevient petit enfant, confiant dans la main du Père. On croit parce qu'on s'est humilié. On croit parce qu'on s'est humilié. Il dit, commencez par prendre de l'eau bénite avec foi. C'est la parole de Pascal, hein, aux incroyants du XVIIe siècle. Allez à Lourdes, dit Benson aux impatients du XXe siècle. Le conseil est dans les deux cas semblable, celui de Pascal et celui de Benson. Faites taire votre orgueil, abaissez-vous, Dieu ne se révèle qu'aux humbles, tombez à genoux, N'est-ce pas aux enfants que le royaume des cieux a été promis, hein? J'ai voyagé en France, dit-il. Aux idolâtries continentales, j'ai participé de tout cœur. Finalement, je suis allé à Lourdes et j'ai vu Jésus de Nazareth et les malades guéris quitter leurs brancards. Je ne me rendais pas compte que de telles choses puissent arriver aujourd'hui. Les signes accompagneront celui qui croit. J'ai fait un acte de foi, maintenant j'ai vu. Souvenez-vous de l'émission que j'ai faite sur ce grand miracle de Lourdes le 8 septembre dernier, qui a saisi une grande partie de l'auditoire. Le 8 septembre dernier, c'était un récit bouleversant que j'ai fait. C'est ça qui frappe ce prêtre ex-anglican et prédicateur, mais aussi conférencier de talent, sur les sujets les plus variés, mais il traite avec la même aisance du roman moderne, de Lourdes, de l'avenir de la religion en Angleterre ou de l'alpinisme même. Et l'Albert Hall, qui est une salle très importante à Londres, Albert Hall, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il est comble quand ce prêtre catholique parle. Il est sujet au trac pourtant, mais il s'échauffe peu à peu, et en descendant de chair complètement épuisé par le trop long effort, on prêchait longtemps dans ce temps-là, il était réjoui. Son style oratoire appelle d'ailleurs souvent son style d'écrivain. L'Église, il la voit d'une façon bien étonnante. Écoutez ça, c'est très particulier. L'Église, il la voit couchée à travers le monde. La tête de l'Église repose à Rome, couronnée d'épines. Le corps de l'Église est blessé, mais non mutilé. Le corps est dépouillé de ses vêtements brillants, mais le corps est en vie. Il s'étend sur la terre. Les bras et les pieds s'allongent à travers les mers et les continents. Et jusqu'en Chine, les doigts délicats de l'Église cherchent des âmes. C'est extraordinaire. Quelle imagination surréaliste. Le romancier mystique qui semble s'emporter gagne sur le prédicateur. Il écrit des tas de romans. Je vous en fais grâce car on ne les trouve plus qu'en bibliothèque. Et ce qui choque chez les gentilshommes qu'il nous présente dans un de ses romans, les conventionnalistes, c'est cette béatitude stupéfiante d'être totalement hermétique au surnaturel. On les rencontre dans des lancements de livres au Ritz-Carlton ou ailleurs. J'y vais de temps en temps, j'y suis allé encore dernièrement, et ce sont les gentilshommes de l'athéisme et de l'agnosticisme que je connais bien. Ils sont gentils. Mais mon Dieu, quelle béatitude stupéfiante d'être totalement hermétique au surnaturel. Ils sont comme ça. La religion, écrit-il à leurs yeux, était une partie de la vie sur laquelle ils essayaient de ne pas exprimer de vue particulière. On ne refusait pas de se rendre aux offices de temps à autre, surtout si on avait le goût de la musique. Alors on va donc à la messe pour la musique. À la campagne, on y accompagnait ses hôtes à la messe. De même qu'on visitait les écuries dans l'après-midi pour voir les chevaux, et c'était tout. Quelle horreur! On est un peu comme ça des fois. C'est pénible, c'est pénible. L'épreuve, écrit-il, n'est que l'ombre d'une bénédiction. C'est l'ombre d'une main paternelle de Dieu. Renoncez à votre volonté, dit-il, regardez la mort en face. C'est une chose brutale à dire, mais l'unique chose à faire. Et souvenez-vous que Dieu et son paradis demeurent, et que le seul mal consiste à être séparé de lui. Que c'est vrai! Le seul mal consiste à être séparé de lui. Je pense à cette lettre de mon fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, pauvre Guy. Il est au ciel. Il écrivait, quelques jours avant de mourir, à mon petit-fils, à son fils Pascal. N'oublie jamais, Pascal, que le seul bonheur dans la vie, c'est d'aimer Dieu. C'est la même chose. Le seul mal, écrit Robert Hugh Benson, consiste à être séparé de lui. Saint Paul, pensez-y, nous avait livré le même secret. Il dit « Je surabonde de joie au milieu de mes tribulations. » Près de la mort, quoi. Cette attitude, qui était en définitive la seule raisonnable pour un véritable chrétien, répugne la plupart des hommes parce que les hommes ont peur de la sainteté. Mais Robert Hugh Benson n'en avait pas peur, lui. Il a le mérite, en tous les cas, de nous le rappeler. La Première Guerre mondiale, qu'il avait par deux fois très clairement annoncé, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, le trouve prêt. Il veut s'engager comme aumônier militaire, mais à 42 ans, il est déjà usé, surmené par une vie qu'il a voulu intense et féconde. Et pour lui, comme pour Sir Neville, très réputé à l'époque, l'initiation suprême est proche, elle sera rapide et épuisée. Eh bien, il meurt d'une pneumonie au cours du mois d'octobre 1914. Il n'a pas pu accompagner les soldats anglais en France. Il n'a pas pu. Mais peu importe les voies qu'emprunteront ses frères en quête de la vérité, Benson les énumère. Il écrit « Il y a mille et mille chemins qui mènent à la cité de Dieu. L'un sera guidé par le son de l'orgue et l'autre par le parfum de l'encens. L'un s'en ira tenant une Bible. L'un est un historien, l'autre un mystique. L'autre un philanthrope et celui-ci est un pécheur qui implore le pardon. Celui-là un simple qui veut être éclairé. Cet autre encore un saint qui réclame l'union avec Dieu. L'un est conduit vers l'Église par la main de sa mère. L'autre s'arrache à ses amis pour suivre le Christ. Ainsi s'en vont-ils ces milliers de mille, chacun suivant sa propre voie, chacun mû par une puissance qui reste pour lui mystérieuse, mais tous finissent par se rencontrer à la même porte, la porte de l'Église catholique. Tous doivent franchir cette porte dont parle l'Apocalypse, qui est faite d'une seule perle. Et ainsi les obscurités que toute vie humaine traverse s'éclairent à la lumière du message qu'il aimait répéter et qui était pour lui la grande certitude. Mon évangile tient en ces mots. Il n'y a pas d'échec. There is no failure. There is no failure. There is no failure. Il n'y a pas d'échec. Quand je pense à mon fils, je me dis... Cette prière que je lui adresse, et j'adresse à tous les enfants, c'est une parole que Dieu adresse aux gens difficiles. Moi, ton Dieu, je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances, et je te dis quand même, donne-moi ton cœur, aime-moi comme tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m'as donné l'amour. Je te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. Mais souviens-toi, aime-moi comme tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour. Sinon, tu n'aimeras jamais.